Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot animée par l'équipe des films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr. Nos précédentes émissions, déjà diffusées sur cette antenne, sont disponibles sur Deezer, iTunes, PodCloud et Spotify. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog, culture-prohibée.blogspot.com.
Ladies and gentlemen, the bloodiest thing that ever happened in front of a camera. Snuff. This is the true story of four innocent young actresses who thought they were making just another movie, but didn't know they were making the ultimate movie.
We'll feel the pain, and you will not flinch from it.
Snuff, the film that could only be made in South America, where life is cheap. Bloodiest thing that ever happened in front of a camera. Snuff.
Au sommaire aujourd'hui, une spéciale Snuff Movie avec l'ouvrage réservé à un public averti, on va dire. Un ouvrage qui s'appelle Sanctions, écrit par un certain Talion et qui traite du sujet. Ouvrage qui est paru dans la collection Carnage chez Zone 52 Édition, et nous irons à la rencontre de ce mystérieux Talion, auteur qui sent le soufre, et de son éditeur, le non moins mystérieux Jérémy Grima. Nous reviendrons également sur le Snuff Movie. Alors, le Snuff Movie mythe ou réalité? Pour essayer de répondre à cette question aujourd'hui, je suis accompagné de deux types très, très étranges. Je veux bien sûr parler de Damien Demédi, la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de culture souterraine et oubliée. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Également présent dans ce studio, celui pour qui le dark web n'a aucun secret, Thomas Roland, dit le loup-garou picard qui, chaque nuit de pleine lune, enregistre à l'écoute du cinéma diffusé sur RCA. Salut Thomas.
Salut Damien, salut Gégé et bien évidemment bonjour à toutes.
Le Snuff Movie, Kezako, mon cher Thomas.
Le Snuff Movies, encore aujourd'hui, est considéré comme une rumeur. Hein, selon des enquêteurs, hein, il n'existe pas de film qui mette en scène la mort réelle d'une personne dans le but d'être commercialisé. Car un Snuff Movie, c'est ça. On met en scène la mort de quelqu'un. Généralement, on associe ça plutôt à de la pellicule 8 mm. Hein, qui a d'ailleurs donné son titre à un célèbre film. On associe plutôt ça à de la pellicule, hein, dont maintenant c'est peut-être changé, si ça existe, je ne sais pas. Mais on associe plutôt ça à une image plutôt crade, granuleuse, dans des décors crado, où on assassine une personne, généralement une jeune femme, d'abord, on lui fait faire des choses plutôt pornographiques, c'est plutôt lié au sexe, pour ensuite la torturer et la mutiler et la tuer. Voilà. Et tout ça à des fins commerciales. Donc, le but, c'est de vendre le film à un spectateur. Donc, c'est ça, un snuff movies, en fait. Le mot snuff signifie, au départ, éteindre une bougie, souffler une flamme avec les doigts. Et c'est devenu un terme argotique pour dire tuer ou clamser, dans le sens de clamser. Le terme de snuff movies fait son apparition aux États-Unis dans les années 70, plus exactement en 1975. Un sergent de police dans la presse déclare qu'il est persuadé qu'il existe de tels films et qu'ils sont réalisés en Amérique du Sud et sont vendus au prix de 1 500 $ pièce. À l'époque, 1 500 $ pièce est une grosse somme. Interrogé par le FBI, l'officier de police se montre pourtant bien incapable d'apporter des preuves. À partir de là, tout s'emballe. Les ligues les plus puritaines ainsi que des associations féministes s'engouffrent dans la brèche pour mener leur croisade contre le porno en faisant l'amalgame entre pornographie et snuff movies. D'ailleurs, Paul Schrader fera le même raccourci dans son film Hardcore en 1978, dans lequel un père de famille, incarné par George C. Scott, recherche sa fille dans les milieux de la pornographie underground où on croit qu'elle a été qu'elle a tourné dans un snuff movie. Les nombreuses rumeurs concernant ce genre de film incite le FBI à enquêter dans les milieux pornographiques sans toutefois trouver la moindre preuve. Cependant, il existe des personnes qui prétendent savoir que ça existe sans en avoir jamais vu, mais qui disent connaître d'autres personnes qui, eux, en ont vu. Donc c'est un peu l'histoire de l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours. Les rumeurs donnent même naissance à des films douteux. Hein, dans les années 70, en 71, il y a des opportunistes comme Michael Findlay ou Horatio Fredrickson qui signent un obscur petit film qui a coûté 30 000 $, qui s'appelle The Slaughter, en 1971 donc, un film qui s'inspire vaguement de l'affaire Charles Manson, et qui est vraiment mal foutu, mal écrit, c'est pas réalisé, enfin c'est nul quoi. Et donc il profite un peu de la rumeur, en 1975, pour rajouter une scène finale à ce film qui montrerait une femme qui se fait assassiner en direct devant la caméra. Donc on change de film, là, on voit tout d'un coup le décor, les techniciens, les caméras, et puis le réalisateur se met en tête de faire l'amour à l'une des techniciennes qui est là, et puis en fait de faire l'amour, bah, il la découpe en morceaux avant de les triper. Donc le film s'arrête brusquement comme ça, sans générique, et donc ça donne naissance à une rumeur comme quoi ce serait un snuff movie. Le film est vendu ainsi comme étant un snuff movie. D'ailleurs, je me souviens des jaquettes qu'on voyait dans les vidéoclubs marquées snuff en gros sur les jaquettes du film et derrière des photos qui n'ont rien à voir avec le film d'ailleurs, maintenant que je l'ai vu, hein, qui n'ont rien à voir avec le film. On voyait des membres par terre dans des flaques de sang, etc., etc. Et donc, il faut bien de nombreuses années pour que la rumeur s'éteigne enfin, pour qu'on admette que ce n'est pas du tout un snuff movie. Déjà, je me demande comment le film a pu être pris au sérieux. Je veux dire, quand on voit la scène, on voit bien que c'est du faux, quoi. On n'y croit pas du tout. On voit bien que c'est du chiquet, quoi. Mais il faut quand même de nombreuses années pour que le film, la rumeur s'arrête enfin, et pour qu'on admette que ce n'est qu'une mise en scène. Ça ne s'arrête pas là, parce qu'en 1991, l'acteur Charlie Sheen tombe sur le film Flowers of Flesh and Blood, un film d'horreur japonais issu de la série des Guinea Pigs, et il pense être devant un snuff. Encore une fois, je me demande comment il fait, parce que le film est découpé, si j'ose dire. Le film est découpé, il y a de la mise en scène. Si ça a été un snuff, on verrait les caméras selon les angles de prise de vue, et les cadrages, etc. Et donc, bon, je comprends pas comment on peut prendre ça pour un snuff, même si le film est extrêmement réaliste et dégueulasse. Alors, longtemps aussi, ce film traînera la réputation d'avoir filmé une véritable mise à mort. Aujourd'hui encore, le terme de snuff movie fait peur, fait frissonner à l'idée que l'on puisse mettre en scène la mort de quelqu'un devant une caméra. Pourtant, il est tentant de penser que ça existe avec la démocratisation des appareils audiovisuels, l'accès à toutes les pornographies sur Internet et le fait que tout le monde peut filmer un accident ou une bagarre. Mais pourtant, filmer un accident, quelqu'un qui meurt devant une caméra, ce n'est pas un snuff, comme je le disais au début. Un snuff, c'est un film réalisé dans le but d'être commercialisé.
Certains disent que, par exemple, la vidéo du fameux tueur en série, pas en série, mais heureusement, parce qu'il a été arrêté après son premier meurtre, mais Luca Magnotta, qui avait filmé son compagnon, qu'il avait découpé en morceaux, tout ça et tout. Il l'avait filmé, il l'avait mis en ligne sur Internet, parce qu'il avait un problème d'ego et qu'il voulait à tout prix qu'on le connaisse. Donc ça, c'est... Je me fais un peu le naïf de service, mais donc ça, c'est pas du snuff, en fait. Ça, c'est le genre de truc qu'on trouve sur le dark web, un peu comme ce que dit Talion dans son ouvrage Sanction, ce dont parle Talion dans son ouvrage Sanction.
Bah, en fait, oui. Bon, le snuff, comme je le disais, c'est réalisé dans le but d'être commercialisé. Alors, je ne sais pas s'il a commercialisé son truc, mais il existe des gens qui filment effectivement leurs victimes. je fais une parenthèse, il y a il faut le livre La mort en direct de Sarah Finger qui est publié chez le Cherche Midi éditeur. Bon, je crois qu'il est épuisé, mais on peut encore le trouver d'occasion, etc. En parle. Elle montre de nombreux exemples de tueurs en série qui ont filmé leurs victimes en train de les torturer, en train de les tuer, etc. etc. Mais ça ne rentre pas dans la définition du snuff parce qu'ils faisaient ça pour leur plaisir personnel, pour pouvoir se repasser les films après, etc. etc. C'est pas dans le but d'être commercialisé, d'entrer dans une, dans, d'être distribué après auprès du public. Donc le snuff movie, comme je le disais, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire ce livre de Sarah Finger, La mort en direct. Il y a d'autres livres qui sont cités dans le livre, qui, je crois, depuis ont été traduits en français. Moi, je ne les ai pas lus. Moi, j'ai lu que celui-là. Donc, je vous laisse découvrir les autres références en rapport avec le livre de Sarah Finger, qui est écrit en collaboration avec un certain Kevin Boissezon, hein, qui est donc l'un des patrons de Artus Film. Sinon, il existe aussi des romans qui abordent le thème du snuff movie, La sirène rouge de Maurice G. Dantec. Mais il y en a un qui est particulièrement corsé, qui est particulièrement noir. C'est Raphaël, dernier jour de Gregory MacDonald, qui a été adapté au cinéma. Mais l'adaptation, elle est pas terrible. Hein. Il a été adapté au cinéma par Johnny Depp sous le titre The Brave. Mais le roman Raphaël, dernier jour de Gregory MacDonald, accrochez-vous.
Écoutez Culture Prohibée.
J'ai un peu fait une naïve de service, Thomas, pour te poser la question, parce que c'est vrai qu'il y a une confusion parfois entre ce qui est vraiment le snuff movie et ce qui est, comment dire, plutôt des actes isolés de fous furieux qui vont filmer des passages à l'acte gravissimes et qui vont les mettre en ligne. Puisqu'effectivement, on n'est pas dans l'exploitation commerciale. Donc, on n'est pas dans le snuff movie. Le snuff movie, sa légende, elle est vraiment... Elle prend forme dans le fait que ce sont des films produits. Alors souvent, d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on voit aussi dans le Hostel d'Eli Ross, c'est-à-dire des films pour des gens un peu richissimes, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'on va filmer la mort de quelqu'un pour une clientèle un peu particulière. C'est une sorte de trip ultime, de trucs complètement délirants. Eros et Thanatos sont de la partie, et voilà. Et il n'y a que quand on est riche. Ce genre de fantasme a toujours un peu existé, d'ailleurs, puisque pour un moment, on avait même accusé Man Ray et John Huston d'être à l'origine de la mort du Dahlia Noir. avec le fait que, comment dire, la disposition du corps, le découpage, si je puis m'exprimer ainsi, de cette pauvre victime, hein, pouvait évoquer la déstructuration que pratiquait Man Ray dans son art photographique. Et puis, comme John Huston était un intellectuel, mais en même temps un jouisseur, voilà, un intellectuel et un très grand metteur en scène aussi d'ailleurs, il y avait effectivement, on se disait, peut-être que ces deux-là, voilà, Elizabeth Short les a peut-être rencontrés, puisqu'elle, c'était une jeune femme qui voulait devenir actrice, elle était peut-être tombée sous leur emprise et ça s'était mal terminé, voilà, suite à un jeu qui s'est mal passé. Donc toutes ces choses-là, dans la culture populaire, ça a toujours un peu existé. Et effectivement, officiellement, de Snuff Movie, on n'a jamais vraiment trouvé l'existence. Hein, voilà, ça n'a jamais existé. Après, juste un petit complément à ce que tu disais, Thomas. Le fameux Snuff, moi que j'ai vu à l'époque de la VHS, hein, voilà, où on s'attendait. Voilà, le final est quand même. À l'époque, ça nous avait quand même pas mal impressionné. Hein, le plan rajouté à la fin, là, avec les tripes à l'air et tout ça, ça nous avait quand même plutôt impressionné. Mais si vous voulez voir des scènes véritablement de Snuff, vous allez plutôt voir de la torture animale, par contre, dans des cannibales holocaustes, des choses comme ça. Là, on est vraiment sur des trucs vraiment peu ragoûtants, quand même, hein, qu'on ne ferait plus. Heureusement, aujourd'hui, on ne s'en prendrait plus aux animaux comme ça. Mais à l'époque, on ne se posait pas la question quand on tournait les films. Et donc, ce film-là, il est aussi fait avec Roberta Findlay. C'est Michael et Roberta Findlay, c'est un couple. Et ils ont beaucoup donné dans le bis. Ils ont à peu près fait tout ce qui pouvait se faire en bis, tout ce qui pouvait ramasser de l'argent, voilà. Donc, ils ont donné dans tous les genres, du moment qu'on pouvait rentrer un peu de pognon. Voilà, donc, hop, il y a une légende urbaine qui arrive, le snuff, et ben, on va faire on va essayer de provoquer un buzz en faisant un snuff, et je suis d'accord avec toi, c'est ultra découpé, tout ça. Enfin, on voit bien que c'est pas... voilà. Et l'histoire de Guinée à pic, bon, bah, Charlie Sheen, on le connaît un peu, hein. Je ne sais pas quelle substance il avait pris le jour où il a bu, où il a bu d'ailleurs, lapsus révélateur. On rappelle quand même qu'il avait un show rien qu'à lui qui cartonnait aux États-Unis, mais qu'à cause de ses multiples problèmes de dépendance, ils l'ont jarté, quoi. C'est un peu comme Ian Michael Vincent avec Supercopter, quoi. C'est-à-dire on a tué la poule aux œufs d'or. Ils ont essayé de continuer la série avec, je crois que c'est avec Ashton Kutcher, je crois, un truc comme ça, mais ça a pas fonctionné, parce que une série qui s'appelle Mon oncle Charlie sans Charlie, ça, c'est plus pareil, quoi. Voilà. Donc il a quand même flingué sa carrière. Bon, bah là, c'est vrai, c'est le deuxième volet c'est une série de courts métrages en fait, les Guinea Pigs, c'est le deuxième volet. Personnellement, je trouve qu'en plus au niveau cinéma, c'est totalement inintéressant, les Guinea Pigs. C'est vraiment pas quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Même si ça faisait son petit effet au moment où c'est sorti. Il y a un film quand même, moi, qui je trouve est assez, comment dire, prémonitoire. Très, très, très intéressant, parce qu'en fin de compte, en parlant de Snuff, il annonce la télé-réalité et tout ce qui va advenir dans les années qui vont succéder au film. C'est Vidéodrome de Cronenberg, qui est un film de 83, où James Wood dirige une chaîne de télé, en fait, spécialisée dans la pornographie et la violence. Et une nuit, un de ses employés, en fait, arrive à capter une émission brésilienne dans laquelle on diffuse des scènes de meurtre, quoi. Et lui, il décide de partir à la recherche de ces images, d'où elles viennent, voilà, comment se les procurer, voilà. Et ça devient une sorte de quête existentielle. Il y a la magnifique Déborah Harry aussi dans le film. Ça devient une sorte de quête existentielle, une véritable plongée aux enfers. On est aussi dans le body horror, comme on dit aujourd'hui, hein, voilà, avec des scènes vraiment traumatisantes. Film qui a pas mal désarçonné la critique, comme souvent les films de Cronenberg d'ailleurs. Hein, quand ils sortent, ils font souvent... La critique les regarde souvent d'une étrange manière. Et puis avec le temps, c'est un film, moi, qui je trouve est devenu vraiment passionnant, quoi. Il est toujours aussi malaisant, il est toujours aussi fort, et il traite toujours de la question avec une grande intelligence, parce qu'il y a une question des rapports entre l'Occident et les pays du Sud. Enfin, il y a plein de choses. C'est très, très fort, c'est Cronenberg, quoi. Voilà. Et puis il y a ce rapport au corps qui est toujours, toujours très fort chez Cronenberg. Toi, tu voulais nous parler aussi d'un film... qui est un film français, d'ailleurs, qui est assez peu connu, qui est un film qui s'appelle Making Of, qui est un film de 2012 de Cédric Dupuis.
La particularité de Making Of, autre que d'être un film français, c'est le mélange à travers son style, de son horreur, de son humour noir, et de ce côté fun footage, chose à laquelle je n'étais pas encore habitué, et que j'ai très peu aimé. Et donc le film raconte l'histoire de Cédric Dupuis qui quitte tout pour devenir un réalisateur très ambitieux, sa première action étant l'achat de la caméra qui lui permet de tout filmer. Seulement, pendant les différentes scènes qui commencent à filmer, la peine performance de ses amis l'agace. Il bafoue un peu ce que lui croit être son véritable chef-d'œuvre. Il bafoue son rêve. Et c'est en s'appuyant sur l'idée d'un de ses amis que finalement, si le film ne marche pas, le making-of qu'il a commencé à perdre peut devenir le film, qui se lance dans le massacre de son entourage qui suit constamment le même chemin, c'est-à-dire il tue, suivi d'un sévice sexuel. Le film est intéressant. Déjà, il récupère les codes du found footage, outre le fait qu'il filme avec la caméra. Il y a ce côté, le réalisateur porte le même nom que le personnage principal. Mais de plus, il y a cette volonté de briser constamment le quatrième mur, ce qui est important parce qu'il y a une nuance assez sensible, c'est-à-dire qu'il ne parle pas vraiment à la caméra, mais il parle plus aux spectateurs, contrairement à ce que font trop de found footage. Et ça participe indirectement au locuteur à participer finalement à l'action. C'est un film qui est très ingénieux dans son ensemble et qui est un de mes found footage préférés.
Écoutez Culture Prohibée.
Je voulais parler, Damien, aussi d'un autre film théorique sur le snuff movie. C'est le premier film d'Alejandro Amenábar, en fait, qui est sorti en 1996. C'est Thesis, qui raconte l'histoire d'une étudiante interprétée par Anna Torrent, qui fait une thèse, en fait, qui fait une thèse sur la violence audiovisuelle. Et elle découvre les snuff movies. Et elle découvre d'ailleurs qu'ils sont réalisés pas très loin de chez elle. Le film est vraiment effrayant. Il y a une montée en tension qui est assez effrayante. Moi, je trouve que ce film, si je l'ai choisi, c'est un très bon film. Voilà. Amenábar, c'est quand même un très bon réalisateur, en fait, globalement. Hein, si on regarde sa carrière, il a quand même fait beaucoup de très bons films. Il est un peu oublié. Souvent, on parle des grands d'Espagne, en particulier dans le fantastique. Et on oublie Amenábar, qui a débuté quand même par deux films autour de l'horreur et du fantastique très, très intéressant. Et puis après, il a été faire Les Autres aux États-Unis, qui est aussi un film très intéressant, hein, qui est un bon film. Hein. Quand il fait ce film-là, qui est son premier film, moi, ce que je trouve très intelligent, c'est que le film démarre et cette étudiante, elle assiste d'abord à un suicide dans le métro. Voilà. Et on sent tout de suite qu'il y a un truc qui cloche chez elle, quoi. Enfin, qui cloche. Pas spécialement chez elle, d'ailleurs, mais qui cloche. On sent qu'elle n'est pas totalement révulsée par ce qu'elle a vu. Il y a une certaine attirance. Et quand elle découvre dans le travail de sa thèse ces snuff movies, elle a envie d'en savoir plus. Elle n'est pas obligée, mais elle a quand même envie d'en savoir plus. Et parce qu'en fait, chez elle, il y a ce mélange de répulsion et de fascination qui, en fait, est propre à tout être humain. C'est ça que je trouve très fort dans ce film. En dehors de l'élégance de sa mise en scène, de très beaux plans travaillés, de cette manière de superposer les images crades de la vidéo. À l'époque, on est plutôt sur du HI8 avec une image plus clean qui est celle de la, voire même surexposée par instant, qui est celle du quotidien de cette jeune femme. Et puis l'enquête, elle est vraiment, on est accro quoi à cette enquête. Et puis cette manière de détourner la violence aussi en utilisant par exemple les images infrarouges. Enfin, il est très malin, il est très fin à Amenábar, mais pas malin au mauvais sens du terme. Hein. Mais le vrai tour de force de ce film, qui est un film comportementaliste, hein, puisqu'en fin de compte, on a très peu d'infos sur l'héroïne. En le revoyant, je me suis dit, mais en fait, on a quasiment pas d'infos sur elle. On connaît pas son passif, on sait pas qui elle est réellement, tout ça, voilà. Et le vrai tour de force, c'est en fait de nous confronter face à nos propres démons à nous. Parce que oui, si le snuff existait, quelle serait notre réaction en fin de compte? Parce que par exemple, je parlais tout à l'heure du meurtre de Luca Magnotta qui a filmé son meurtre, qui l'a mis sur Internet. On a bien vu la vague de téléchargement de la vidéo qui a suivi. Mais qu'est-ce qui peut fasciner les gens dans ces images qui sont une vraie mise à mort? C'est horrible en fait, quoi. C'est pas du cinéma, quoi. Voilà, c'est une horreur. Et le film questionne là-dessus et je trouve ça très très intéressant et très bien vu en fait de la part du metteur en scène, puisque c'est aussi une manière d'interroger le cinéma. Alors peut-être moins profond que ça, Thomas, mais 8 mm questionne aussi là-dessus sur ce rapport à l'image, alors qui n'est pas de la vidéo pour le coup, parce que c'est du 8 mm, c'est dans le titre.
Bah, non, 8 mm, le stuff movie, c'est plus un moyen dans le film plutôt qu'un but en fait. C'est plus un moyen pour Joel Schumacher, qui était un cinéaste de gauche, hein, je le rappelle, gauche plutôt moraliste, hein, cependant. Hein. Un moyen pour Joel Schumacher de mettre la société américaine en accusation. En fait, avec son personnage de détective privé, qui a une femme, une petite fille, etc., il veut montrer que la société américaine, ce qu'elle veut bien montrer, c'est une façade, et puis que derrière, finalement, les choses ne sont pas si roses que ça. Il est engagé par une veuve, dont le mari vient de décéder, un homme riche, et dans le coffre de qui elle a découvert une bobine 8 mm qui présente apparemment une scène pornographique qui se termine par la mort d'une jeune femme, une jeune fille. Donc elle veut savoir si c'est une vraie mort ou si c'est un film simulé, mis en scène, etc. Et donc à partir de là, ce personnage, interprété par Nicolas Cage, qui... Bon, moi, j'aime bien Joel Schumacher, hein, mais c'est un cinéaste quand même parfois un peu balourd et plutôt maladroit, il faut l'avouer. Bon, quand je dis je l'aime bien, je veux dire, je le défends dans le sens parce qu'il est souvent taxé de fasciste, d'extrême droite, etc., alors que non, c'est une gauche moraliste, voilà, c'est ça. Joel Schumacher, c'est la gauche moraliste. Et là, il veut montrer que la société américaine, derrière, c'est pas si beau que ça. Par exemple, son personnage, eh bien, il fume en cachette, ce qui est quand même pas léger comme détail, quoi, pour montrer que tout n'est pas bien. Et puis, il va enquêter dans le milieu porno underground. Donc, on a une descente un peu poisseuse, hein, dans les descentes, dans les milieux porno underground. Et là, il va, avec cette histoire de snuff movies, en fait, ce personnage, cet homme riche, s'est acheté un snuff movies parce qu'il pouvait le faire. À travers cette histoire, il veut montrer que la société américaine qui met en avant la religion, la famille, où les gens sont parfois pleins aux as, etc., bah, ne sont pas si beaux que ça. Et notamment avec ce personnage de tueur qui prend plaisir à tuer, qui prend plaisir à torturer des femmes, qui vient d'une famille plutôt bigote. Et lui dit, moi j'aime ça, je fais ça parce que j'aime ça. Et donc il veut montrer que les choses ne sont pas si roses que ça. C'est un film plutôt maladroit, qu'on a plutôt un peu mis trop facilement dans le film d'auto-justice, etc. Mais je pense que c'est un film qui est plus intéressant que ça, en fait.
Et vous nous connaissez, hein, Damien, Thomas et moi, nous, on mouille le maillot, quoi. On va pas se contenter de parler de cinéma, de snuff movie comme ça, et puis hop, on remballe, l'émission est terminée. Non, nous, on est allé à la rencontre d'un certain Talion. C'est un pseudonyme, hein, peut-être qu'un jour on saura qui c'est, mais bon, pour l'instant il arrive à conserver son identité secrète. On est allé à la rencontre d'un certain Talion, qui a publié un livre sur le sujet des vidéos de mise à mort qu'on peut trouver sur le dark web, hein, voilà, sur le snuff movie, mythe, réalité. Est-ce qu'il y a vraiment un business du net autour du snuff movie, voilà, et qui produit ce genre de vidéos, qui fait cela, voilà, voilà, ça donne un livre, comment dire, dans la grande tradition des livres de la défunte collection Gore. Là, ça inaugure une nouvelle collection qui est publiée par Zone 52 Édition, collection qui s'appelle Carnage, avec un K, attention. Et donc, Talion a écrit un livre qui s'appelle Sanction. Et mon cher Thomas, nous sommes allés à la rencontre de ce fameux, comment dire, Talion. Et donc, tout de suite, Talion, au micro de Culture Prohibée.
«
Talion, vous avez souhaité être interrogé de façon anonyme en modifiant votre voix. Cela voudrait-il dire qu'il y a une part autobiographique dans Sanction ?
Une large partie de ce qui est raconté prend appui sur des éléments autobiographiques, et donc tu comprendras pourquoi je ne peux pas trop en dire et pourquoi je préfère travestir ma voix, surtout en ces temps de surveillance accrue sur les réseaux. Ceux qu'on appelle les complotistes n'ont pas toujours tort en réalité, et je risque gros si on découvre mon identité réelle. D'ailleurs, avant ton émission, j'ai reçu quelques messages très inquiétants et particulièrement menaçants, et je ne sais pas comment ils ont eu accès à mon adresse, mais c'est comme ça. Et si tu as lu mon roman, sache que le jeune Axel Bognac, qu'on trouve donc dans le récit, n'a pas toujours tort dans ce qu'il révèle à la police.
Talion, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre ?
Alors, plusieurs choses. D'abord, l'envie d'expérimenter l'écriture limite, en quelque sorte. L'écriture comme un jeu, une espèce de gageur, un pari. Voir jusqu'où je pourrais aller, dans l'ordre du vice et du gore. Et puis tenter aussi l'écriture porno. C'est presque quelque chose qui m'intéresse plus que la description gore proprement dite. Il y a ça. Il y a peut-être aussi le besoin de catharsis, puisque j'ai écrit ce Sanction très vite, en 3 ou 4 semaines, pendant le premier confinement, en mars et avril de l'année dernière. Et puis enfin, la volonté de dresser une image un peu pervertie du monde éducatif, m'amuser en fait à ruer dans les brancards de ce qu'on appelle le politiquement correct, et en finir avec les mots un peu mantra, qu'on récite comme un mantra de bienveillance, d'empathie, qui courent dans l'éducation nationale. Prendre en quelque sorte le contre-pied de la doxa pédagogique et pousser cette logique jusqu'à l'horreur. Et puis peut-être aussi le besoin de témoigner, mais là pareil, je peux pas en révéler trop, et tu comprendras bien pourquoi.
Justement, vous parlez d'éducation nationale, cher Talion, et sans trop en dévoiler, il y a des bruits qui courent qui disent que vous êtes professeur dans la vraie vie. Est-ce que ce qui est décrit dans votre roman est ce qu'il vous inspire et pourquoi ?
Alors oui, c'est un milieu que je connais bien, puisque je suis professeur dans un collège de province depuis plus de 20 ans. Mais bon, je ne vais pas te dire où, je veux pas avoir d'ennui avec les instances administratives de mon département et de ma ville. Alors pour mon premier roman, oui, il m'a semblé opportun, si tu veux, de choisir un cadre qui m'était familier. Alors pourquoi fondamentalement, plus que l'expérience vécue ? Parce que, comme je te le disais, je trouvais amusant d'imaginer une espèce de révolution réactionnaire dans l'univers scolaire, aux antipodes de ce qu'impose la pédagogie moderne. Alors évidemment, j'ai poussé le bouchon très loin, nous sommes dans le rayon gore, de manière caricaturale même. Mais quand même, j'avais à cœur d'exemplifier, si tu veux, cette espèce de verticalité, cette dissymétrie, qui est consubstantielle selon moi à l'acte d'éducation. Alors bien sûr, mes personnages sont complètement cinglés, ils confondent tout, ils confondent l'enseignant avec le maître à qui on se soumet. N'empêche que je voulais appuyer là où ça fait mal actuellement, la crise de l'autorité, la libération anarchique de la parole dans l'espace de la classe, l'horizontalité des rapports entre élèves et profs, ce dont souffrent en fait pas mal d'enseignants, alors en silence bien sûr, parce qu'il faudrait pas passer pour un salaud de réac, et ce qui parasite selon moi la transmission des savoirs. Ceci dit, le bouquin, c'est pas un essai politico-pédagogique ou sociologique, et je souhaitais surtout m'amuser, dépasser les limites et proposer une image inversée en fait des représentations communes qu'on se fait du monde enseignant, généralement vu comme tout en bienveillance et en positivité, comme je te le disais précédemment.
Le livre s'inscrit dans un registre de genre avec son lot de péripéties pas forcément vraisemblables, mais pourtant il y a des détails assez réalistes sur la typification des personnages. Avez-vous rencontré des personnalités ou mené une enquête ?
Bien sûr, chaque personnage et inspiré d'un modèle, tout ce qu'il y a de plus vrai. C'est presque un roman à clé, en ce sens. Alors, quant aux personnages qui ont inspiré ce couple de criminels, sans ne rien dévoiler, je peux pas trop en dire, car là, pour le coup, je risquerais gros. Ce sont des amis et des gens avec qui je suis en contact. Alors, moins depuis la parution du roman, car on doit prendre nos précautions. Et là, déjà, j'en dis trop, et d'ailleurs, j'espère que vous couperez ça au montage. Thank you.
Talion, auteur de Sanctions, paru dans la collection Carnage, chez Zone 52 Éditions, au micro de Culture Prohibée.
Connaissance avez-vous du dark web? L'avez-vous déjà visité, vous ou des proches? Comment vous êtes-vous renseigné sur ce sujet?
Ah, sujet brûlant! Alors, je connais certaines personnes œuvrant hein, sur le dark web, tout du moins consommateurs hein, de documents largement interdits, mais là encore, je peux pas trop en dire, hein, leur sécurité serait pas vraiment assurée, ne serait plus assurée. Mais oui, tout est fondé sur des témoignages de première main, et j'ai même pu me procurer quelques documents vidéo dont je préfère ne pas parler, hein, parce que quand j'y repense, bah, ça me réveille encore la nuit, et ils sont définitivement inscrits au fond de mon cortex. Inutile de dire qu'ils sont à la source de quelques descriptions hein, dans mon roman, bien évidemment.
Ah justement, Talion, vous semblez très au fait des snuff movies. Que pouvez-vous nous dire sur l'existence supposée de ces films? En avez-vous déjà vu?
Bien sûr qu'ils existent, bien sûr qu'ils existent. J'en ai quelques-uns chez moi, mais que je garde précieusement cachés. Je voudrais surtout pas que ma femme ou mon fils tombe dessus. Alors oui, on a fait croire hein, que tous ces films scandaleux, alors comme le fameux snuff hein, des années 70, Guinea Pig, et même certains segments de Face à la mort, ou la fameuse séquence dans Black Emmanuel en Amérique hein, de Joe D'Amato, et on a fait croire que c'était des fakes, des faux. Tu parles. J'ai bien sûr toutes les preuves que ça c'est réel. Et j'ai même quelques plans coupés de ces films avec le making-of. Alors il faut avoir les bons réseaux, dira-t-on, et connaître des gens comme des granites. Hein, les lecteurs de Sanctions comprendront.
Le livre regorge de descriptions anatomiques précises. Cela provient-il d'une certaine expérience personnelle ou de l'étude d'ouvrages spécialisés?
Ah, oui, j'ai pu aider hein, quelques amis à se débarrasser de corps un peu encombrants après filmage, après réalisation. Et puis j'ai la chance d'avoir un fils faisant des études de médecine et qui dernièrement faisait l'un de ses stages en médecine légale. Donc l'anatomie et la thanatologie, hein, bah, ça le connaît un peu. Et c'était donc une source d'information de première main, si j'ose dire. Il a même pu dérober quelques morceaux de foie hein, à sa morgue et les convoyer jusque chez moi. Alors j'avais alors tout le loisir de les étudier et de parfaire mes descriptions. Évidemment, ça embaumait un peu dans ma maison, mais ma femme et moi, on a vidé quelques bombes de sang bon hein, pour masquer les mauvaises odeurs. Mais oui, bien sûr, hein, les informations étaient de première main.
À la lecture de Sanctions, plus particulièrement de la fin, impossible de ne pas penser à La Sirène Rouge, mais surtout aux Racines du Mal, deux romans signés Maurice G. Dantec. Est-ce une simple influence ou cela est basé sur des informations que vous auriez?
Alors, à ma grande honte, je n'ai pas lu hein, ces deux romans de Dantec, ce qui est impardonnable, mais je sais effectivement qu'ils abordent le sujet, alors notamment La Sirène Rouge, hein, son premier roman, je crois, hein, dans lequel il semble dresser une typologie du snuff, hein, soit des productions luxueuses, donc destinées à des clients argentés, ou des reportages de guerre vendus ensuite sous le manteau. Mais je n'ai pas eu besoin de Dantec, si j'ose dire, personnage que j'apprécie par ailleurs, hein, pour me renseigner sur le sujet. Mes sources étaient encore plus fiables que cela, si je puis dire.
Le cinéma en général est très présent dans le roman, en particulier le cinéma bis italien. N'avez-vous pas peur, avec vos deux personnages de tortionnaires, de donner raison à différents courants de pensée qui amalgament cinéma de genre et passage à l'acte?
Oh non, non, je m'amuse justement avec cette idée et j'essaie de pousser cette logique, en fait la logique des contempteurs de son film, hein, jusqu'à l'absurde, au point qu'on ne peut y croire. En fait, je prends au pied de la lettre les arguments de ceux qui ont pu organiser alors ce qu'on a appelé cette panique morale, notamment dans les années 80, notamment en Angleterre. J'adopte là le point de vue des contempteurs de cinéma pour les tourner en ridicule. Mais mon idée, en fait, c'était aussi de rendre au cinéma que j'aime, donc au cinéma bis italien, à ce genre de film, son caractère un peu dangereux, offensif, sulfureux, pour le sortir un peu de cette culture, comment dirais-je, de cette culture YouTube, de cette culture un peu geek, où on tourne tout objet culturel en dérision, en produit de consommation courante, et où on vide en fait l'objet de toute sa substance, de toute sa sève, selon moi. Dans mon livre, hein, des films comme Cannibal Holocaust ou Blue Holocaust retrouvent un peu, j'espère, cette saveur diabolique et scandaleuse qu'ils avaient perdue à force d'être commentés, à force de glose et de blagues un peu potaches autour. Voilà, je voulais redonner un petit peu leur côté dangereux à tous ces films.
Vous voulez dire, Talion, que bien loin de ce qu'on appelle aujourd'hui la pop culture, le cinéma, comme on dit, de genre, d'ailleurs désormais, plutôt que cinéma bis, vous voyez comme quoi les termes évoluent et veulent dire des choses, était subversif ?
Oui, j'en suis convaincu. Hein, il n'y a qu'à voir la réaction que ça a pu provoquer justement. Alors dans certains pays, hein, c'est vrai, qui n'ont peut-être pas la même culture, la culture latine de chez nous, mais si on observe la réaction, politique, hein, dans certaines contrées, je pense notamment à l'Angleterre avec les vidéos nazies, je reste persuadé qu'il y avait une espèce de force subversive, qui transparaissait dans les films. Ouais, j'en suis convaincu, et cette force a été un peu perdue, parce que évidemment on est abreuvé d'images qui sont bien plus terribles que ce qui avait été filmé. Une espèce de flot continu comme ça, de documents, de vidéos, de faits divers qui sont aujourd'hui filmés. Tout ça c'est un peu perdu, mais oui, j'estime qu'il y avait cette force. Ouais.
Le mystérieux Talion va-t-il encore sévir dans un futur proche ?
Oui, bien sûr. Alors, sans trop en dire, hein, je suis déjà sur un deuxième roman qui, pour le coup, là, sera pleinement inscrit dans un genre qui m'est très cher et dans un décor qui l'est encore plus. Hein, alors, ce sera moins radical, encore que plus ambitieux, hein, si j'ose le mot, et très italianisant, très années 80 aussi. Mais alors, dans sa face la plus noire et la plus déprimante, hein, pas du tout les années 80 à la Stranger Things, hein, si tu vois ce que je veux dire, ni à la Goonies. Pas du 80s 2.0, hein, si tu comprends le sens de cette expression. Hein, ça, c'est vraiment l'horreur pour moi. Et évidemment, ce sera encore très érotique, très sanglant. Hein, et ça se passera dans la belle ville, la più bella città de Florence. Voilà.
Alors, cher Talion, si Interpol ne vous a pas interpellé d'ici là, nous avons hâte de lire votre prochain opus, votre prochain roman pour lequel vous nous avez donné l'eau à la bouche.
Eh bien, merci beaucoup. Oui, j'espère que ça vous plaira. Hein. Et puis, je croise les doigts. J'espère qu'après cette interview, effectivement, rien n'arrivera de fâcheux. Hein, et j'espère encore pouvoir vous parler.
Vous écoutez Culture Prohibée.
Thomas, au risque de perdre la vie, tu t'es aventuré dans l'antre de Talion, comme on a pu l'entendre, hein, même si les voix étaient un peu déformées, un peu détournées comme ça, parce que voilà, il faut masquer les identités de chacun. Hein. J'espère que tu n'auras pas d'ennui, mon cher Thomas. On a aussi été rencontrer l'éditeur de ce Talion, parce qu'il ne pourrait pas propager Talion, sa sainte parole, si j'ose m'exprimer ainsi, sans le soutien d'un éditeur, Zone 52 Éditions en l'occurrence. Et cet éditeur donc, qui tient la maison Zone 52 Éditions, c'est Jérémy Grimat. Jérémy Grimat, qui n'a pas, c'est pas un pseudo, c'est son vrai nom. Il n'a peur de rien. Et donc, Thomas s'est également rendu auprès de Jérémy Grimat pour aller glaner quelques informations au sujet de la collection Carnage et des éditions Zone 52.
Déjà parce que moi, j'aime les romans gore et je n'avais plus rien à lire, j'avais plus rien sous le coude. Il y a les gores des Alpes qui sont très cool en ce moment, mais voilà, moi j'avais envie de lire des bons bouquins gore dans la grande tradition des années 80 et de la mythique collection parue chez Fleuve Noir. Donc déjà, voilà, c'est un désir très égoïste, c'est pouvoir avoir des manuscrits et lire des romans gore. Et des fois que je les lis pour moi, autant faire partager ça avec des lecteurs. parle quand même d'une littérature de niche. On imagine bien qu'un roman gore aujourd'hui, ça n'intéresse pas, tu vois, le grand public. Donc, étude de marché, elle s'est faite tout simplement. Elle s'est faite en sortant un premier tome, voir si ça prenait un petit peu. Et tant que ça prendra, on continuera. Puis quand ça prendra plus, bah, on arrêtera tout simplement. Donc, il n'y a pas, si tu veux, une ambition derrière gigantesque de vendre des milliers de livres, puisque de toute façon, par définition, on sait que voilà, on est très peu être intéressé par cette culture, mais qui est une culture intéressante. Et j'en reviens un petit peu sur la raison pour laquelle j'avais envie de lancer la collection, c'est que pour moi, ça fait partie d'un patrimoine littéraire populaire et qu'il ne faut pas perdre, tout simplement. On a eu la collection Gore, on a eu Trash, qui était fabuleux il y a une dizaine d'années, un petit peu moins. Donc il y avait aussi ce désir, tu vois, de maintenir une certaine tradition littéraire, parce que c'est de la littérature, avec un grand L, et moi, j'ai aucun mal à le ranger à côté de Stendhal et de, je sais pas, moi, de Stephen King et de Marcel Proust, par exemple. Donc voilà, il y avait cette volonté de, tu vois, de perpétuer une tradition et en même temps de donner une fenêtre sur cette culture qui ne doit pas être oubliée, quoi. On l'a trouvé avec Juliette Morand, donc, qui travaillait avec moi sur la collection. On était à un salon du livre, tous les deux, on était exposants. Et bah, finalement, tu sais que c'est le premier nom qu'on a trouvé, Carnage. Et je me suis même demandé pourquoi personne n'avait encore sorti une collection qui s'appelait Carnage. On a eu Frisson, Angoisse, Gore, Carnage, avec un K, parce qu'on aime bien les K. Et donc non, écoute, c'est venu méga simplement. Il n'y a pas eu de brainstorming de fou, en fait. Ouais, il y en a déjà pas mal, puisque là, on est bien occupé jusqu'à au moins mi-2022. Moi, je peux lâcher le prochain. Le prochain, je suis hyper content, c'est Zaroff qui nous signe un roman génial qui est en cours de finition, là, qui s'appelle Acid Cop, qui va être un tribute, un hommage au cinéma de Vigilante des années 80, Injusticier dans la ville, Cobra, Matinée d'un petit Toxic Avenger de la Trauma. Donc ça va être pas mal du tout, ça. Today we are witness to the dawn of a new communications era brought upon us by satellites, lasers, fiber optics, microprocessors, and magnetic bubbles for the transfer of information, ideas, knowledge.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radiographique, graphique.net. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, iTunes, PodCloud et Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demé, dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland, dit Le Loup-Garou Picard, and the last but not the least. Je veux bien sûr parler de Léomanien à la technique. Salut les gens, à la prochaine.